Chapitre 28. Un grand calme avait envahi l'habitacle de la 206 une fois que Nicolas eut raccroché son téléphone. Après presque 11 heures de planque, Audra et lui n'entendaient même plus le doux crépitement de la pluie sur le toit et avaient l'impression d'être seuls au monde sur cette île paumée de l'Oise, avalée par l'obscurité, sans possibilité d'allumer ni la lampe du plafonnier, ni les phares. Ils connaissaient désormais le moindre recoin de ce chantier naval abandonné, chaque mètre carré qu'ils avaient exploré à tour de rôle, histoire de se dégourdir les jambes, de tuer le temps, de sortir de leur confinement saturé de buée et d'odeur de nourriture. Planquer était sans doute la partie la plus désagréable du métier, mais elle était nécessaire. Il était prévu qu'une équipe vienne les relayer d'ici peu. La planque devait se maintenir non-stop, par groupe de deux, au moins jusqu'à dimanche minuit. L'attente devenait insupportable et le duo s'était persuadé que le punisseur ne viendrait pas ce soir.
« Laetitia Chapelier, je n'en reviens pas !» souffla Nicolas.
Les deux policiers venaient d'apprendre la nouvelle au téléphone. Une onde de choc. Audra appuya sa nuque contre l'appui-tête de son fauteuil, mais ses muscles restèrent tendus. Elle s'était remise à dessiner des bonshommes sur le haut du pare-brise, du bout de l'index.
Une mère en perdition qui s'est fait manipuler et a tout tenté pour sauver sa fille, dit Nicolas. Elle a été prise dans un engrenage. Comment elle pouvait savoir qu'un code PIN tuerait quelqu'un ?
Ça n'excuse rien, répliqua Audra d'un ton sec. Elle est comme eux, au final. Elle agit et des gens meurent. Des familles sont détruites. Les survivants ne guériront jamais d'avoir perdu un proche, même avec tous ces médicaments qu'on leur fait ingurgiter, même avec ces séances chez des psychiatres. Tout ça, ce sont juste des pansements temporaires, des anesthésiques.
Elle remonta la fermeture de son manteau d'un geste sec.
« La ligne est trop ténue, Nicolas. Un jour, tu te retrouves avec le torse ceinturé d'explosifs parce que tu as franchi cette ligne. » Même si la société a sa part de responsabilité parce qu'elle anéantit ceux qui sont en marge, tu avais le choix de ne pas le faire, mais tu l'as fait. On ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas pardonner. On n'a pas le droit pour nos enfants et ceux qui souffrent de l'infernal malheur que ces gens causent. Si on pardonne, on fait de nos enfants les monstres de demain. »
Nicolas sentait toute l'amertume qu'elle avait au fond du cœur. Le pardon libérait du passé, mais Audra avait fait le choix d'en rester prisonnière. Elle sortit et claqua violemment la portière. Son partenaire la vit disparaître le long de la paroi en tôle d'un hangar. Elle était une jeune femme intelligente, plutôt joviale. Pendant toutes ces heures, ils avaient parlé de fragments de vie, de boulot et des racines. Audra avait étudié à la faculté de droit de Toulon avant de réussir le concours pour devenir flic. Elle revendiquait des origines nordiques. Elle descendait des peuples lapons par ses grands-parents et une partie de sa famille lointaine résidait encore aux alentours d'Alta, en Laponie norvégienne. Elle n'y était jamais allée. Nicolas ignorait pourquoi. La coquille s'était refermée dès qu'il avait voulu creuser des aspects plus personnels de sa vie. Il s'était aussi rendu compte à quel point elle réagissait de façon excessive sur les questions de justice. Pire encore, à l'évocation du terrorisme. Le sujet était inabordable. Que lui était-il arrivé pour provoquer une telle souffrance et cette volonté de ne plus jamais pardonner? Avait-elle vu le camion fou lui foncer dessus? Un ou plusieurs de ses proches avaient-ils été renversés par le chauffeur? Ou avait-elle fait partie de l'escouade envoyée sur place après le massacre ce soir-là? Impossible de savoir. Mais le traumatisme existait, enfoui dans les replis obscurs de son subconscient. Elle avait laissé son téléphone branché sur le chargeur de secours et l'écran afficha un message. Nicolas ne put s'empêcher d'y jeter un regard. Encore lui, encore ce Roland Cazulois. Audra avait passé sa journée à lui envoyer des messages, à surfer sur son profil Facebook. Son petit ami, sans doute possible. Cette fois-ci, Roland lui envoyait la vidéo d'un clip de Mylène Farmer, avec un mot « Souvenir de fac de 2004 » où il s'était passé beaucoup de choses. accompagné d'une série de smileys débiles. Nicolas observa l'icône associée au visage de Roland. Rien d'extraordinaire. Une chevelure couleur feu, un front dégarni et des joues constellées de taches de rousseur. Alors, comme ça, ils se connaissaient depuis la fac. Un vieux couple, mais pas marié, vu qu'elle ne portait pas d'alliance. Où habitait Roland ? Avec elle, à Paris ? Était-il resté dans le sud ? Nicolas se rendit compte qu'il tenait l'appareil et le remit vite en place. Que lui arrivait-il ? N'était-il pas en train de ressentir une pointe de jalousie ? Il refusa l'idée que tout puisse aller aussi vite, que son cœur fermé depuis 4 ans se rouvre en si peu de temps. Sans savoir pourquoi, il songea à la floraison des bambous. Il existe un moment où, partout à travers le monde et par un phénomène inexplicable, les bambous de la même espèce se mettent à fleurir tous en même temps, parfois après 5 ou 10 ans en dormance. Puis ils meurent. Son cœur fleurissait comme un bambou. Conneries. Nicolas ne voulait pas retomber amoureux, encore moins d'une femme en couple, et encore moins maintenant au milieu des ténèbres. Soudain, sur la droite, des phares trouèrent la nuit à travers la végétation. Le flic se remit à l'affût et jeta un œil sur le côté. Où était sa collègue ? Audra réapparut et se glissa dans l'habitacle en se frottant les mains l'une contre l'autre. « C'est lui ?» Le véhicule se rapprocha et bifurqua dans leur direction avant d'émettre une série d'appels de phares. Nicolas ne cacha pas sa déception. « Nos remplaçants. » Un peu en avance. Super. Audra afficha elle aussi sa déception. Mais la chance ne pouvait pas arriver à tous les coups. Ils sortirent, échangèrent quelques mots avec les 2 policiers venus assurer la relève et reprirent la route. Au moment de s'engager sur l'autoroute, un message arriva sur le téléphone de Nicolas. C'était Yacine. Au propriétaire des péniches du port Van Gogh, les compteurs électriques sont sous l'eau. Plus d'électricité.